Le livre de Joël et l'Église adventiste du septième jour laodicéenne, numéro 31.
Numéro 31.
Les trois derniers accomplissements messianiques, relevés dans le livre de Matthieu, identifient trois éléments du jalon de la loi du dimanche. La dispersion du peuple de Dieu au moment de la loi du dimanche, typifiée par la dispersion du petit troupeau le 22 octobre 1844 et par la dispersion des disciples à la croix. Ces deux dispersions s'alignent sur la loi du dimanche. En lien avec la Galilée, symbole d'un tournant prophétique, ceux qui ont été dans les ténèbres jusqu'au moment de la loi du dimanche seront appelés à sortir des ténèbres. Ces personnes sont l'autre troupeau de Dieu, les ouvriers de la 11e heure, éveillés à la question de la controverse du sabbat alors qu'ils sont appelés à sortir de Babylone. Leur appel à sortir de Babylone constitue la seconde phase du jugement, qui commence à la maison de Dieu puis, au moment de la loi du dimanche, atteint ceux qui sont en dehors de Jérusalem.
Le dixième jalon messianique est la dispersion de la loi du dimanche.
Mais tout cela a été fait afin que s'accomplissent les écritures des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Matthieu 26, 56.
Prédiction.
Épée, réveille-toi contre mon berger et contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main sur les petits. Zacharie 13, 7.
Nous serons bientôt très dispersés, et ce que nous faisons doit être fait rapidement. Fondement de l'éducation chrétienne, 535. Le temps vient où nous serons séparés et dispersés, et chacun de nous devra tenir ferme, sans le privilège de la communion avec ceux qui partagent la même foi précieuse. Et comment pourrez-vous tenir ferme, à moins que Dieu ne soit à vos côtés, et que vous sachiez qu'il vous conduit et vous guide? Review and Herald, 25 mars 1890.
Le onzième jalon messianique, c'est la vocation des païens.
Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe, le prophète, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, par le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Matthieu 4, 14-16.
Prédiction.
Cependant, l'obscurité ne sera pas telle qu'au temps de sa détresse, lorsque, d'abord, il a légèrement affligé le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, et qu'ensuite il l'a affligé plus durement par le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, en Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Ésaïe 9, 1, 2.
Lors de la loi du dimanche, la pluie tardive sera déversée sans mesure et les païens verront une grande lumière. La persécution dispersera les fidèles et propagera le message.
On vous livrera aux tribunaux, oui, et vous serez amenés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage, à eux et aux païens. Matthieu 10, 17, 18, RV. La persécution répandra la lumière. Les serviteurs du Christ seront amenés devant les grands de ce monde, qui, sans cela, n'entendraient peut-être jamais l'Évangile. La vérité leur a été défigurée. Ils ont prêté l'oreille à de fausses accusations au sujet de la foi des disciples du Christ. Souvent, leur seul moyen d'en connaître le véritable caractère est le témoignage de ceux qui sont traduits en justice pour leur foi. Lors de l'interrogatoire, on exige d'eux des réponses, et leurs juges doivent écouter le témoignage rendu. La grâce de Dieu sera accordée à ses serviteurs pour faire face à l'épreuve. Il vous sera donné à cette même heure ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. À mesure que l'Esprit de Dieu éclaire l'intelligence de ses serviteurs, la vérité sera présentée dans sa puissance et sa précieuse valeur divine. Ceux qui rejettent la vérité se dresseront pour accuser et opprimer les disciples. Mais dans la perte et la souffrance, jusque dans la mort, les enfants du Seigneur doivent manifester la mansuétude de leur divin modèle. Ainsi apparaîtra le contraste entre les agents de Satan et les représentants du Christ. Le Sauveur sera élevé devant les autorités et le peuple.
Les disciples ne furent pas dotés du courage et de la force d'âme des martyrs avant que cette grâce ne fût nécessaire. Alors la promesse du Sauveur s'accomplit. Lorsque Pierre et Jean témoignèrent devant le conseil du Sanhédrin, les hommes s'étonnèrent et ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4, 13. À propos d'Étienne, il est écrit que tous ceux qui siégeaient au conseil, fixant leur regard sur lui, virent son visage comme s'il avait été le visage d'un ange. On ne put résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Acte 6, 15, 10. Et Paul, écrivant au sujet de son propre procès devant la cour des Césars, dit « À ma première défense, personne n'a pris mon parti, mais tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi le message fût pleinement proclamé et que tous les gentils entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » 2 Timothée 4, 16, 17. Hervé.
Les serviteurs du Christ ne devaient pas préparer des discours tout faits à présenter lorsqu'ils seraient traduits en justice. Leur préparation devait se faire jour après jour, en amassant les précieuses vérités de la parole de Dieu et par la prière, en affermissant leur foi. Lorsqu'ils seraient traduits en justice, le Saint-Esprit leur rappellerait les vérités mêmes dont ils auraient besoin. Le désir des siècles, 354-355.
Le jugement commence par la maison de Dieu, le 11 septembre, et se termine lors de la loi du dimanche, lorsque le jugement se tourne ensuite vers l'autre troupeau de Dieu, en dehors de la maison de Dieu.
Le 12e jalon messianique est le jugement pour les nations.
Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe, le prophète, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme se complaît. Je mettrai mon esprit sur lui, et il fera connaître la justice aux nations. Il ne contestera point, et ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau, froissé, et n'éteindra pas la mèche qui fume, jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice. Et les nations mettront leur espérance en son nom. » Matthieu 12, 17, 21.
Prédiction.
Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il fera paraître la justice pour les nations. Il ne criera pas, n'élèvera pas la voix, et ne la fera pas entendre dans les rues. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche qui fume, il ne l'éteindra pas. Il fera paraître la justice selon la vérité. Il ne faiblira pas et ne se découragera pas, jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre, et les îles espéreront sa loi. Ésaïe 42, 1, 4.
La clôture du jugement pour la maison de Dieu a commencé en juillet 2023 lorsqu'une voix s'est fait entendre dans les rues où Moïse et Pélie gisaient morts, dans une vallée d'ossements morts et desséchés. Lorsque la voix a été entendue, le jugement a commencé à se clore pour la maison de Dieu et s'est dirigé vers le jugement des païens. Il y a 12 accomplissements messianiques dans l'Évangile selon Matthieu qui identifient les principaux jalons du mouvement de réforme des 144 000. Ces 12 jalons sont préfigurés par le Messie 1989-1996, le 11 septembre 2001, le 18 juillet 2020, juillet 2023, 2024, le cri de minuit, la séparation des prêtres et la loi du dimanche sont tous identifiés, le 11 septembre ayant un témoignage interne et externe et la loi du dimanche ayant un témoignage interne d'une dispersion. Puis deux témoins de la période de jugement des ouvriers de l'onzième heure. 9 jalons du mouvement de réforme des 144 000 sont directement identifiés dans l'Évangile selon Matthieu.
Matthieu est l'alpha du Nouveau Testament et l'Apocalypse en est l'oméga. Matthieu est un chef-d'œuvre prophétique dont la signification est demeurée scellée jusqu'au temps de la fin. Il contient les 12 chapitres oméga qui correspondent à l'alpha de la Genèse, chapitres 11 à 22. En tant qu'alpha par rapport à l'Apocalypse, il fait écho à la relation inspirée entre Daniel et l'Apocalypse. Ce qui est révélé des livres de Daniel et de l'Apocalypse au sujet de leur relation prophétique vaudrait aussi pour la relation entre Matthieu et l'Apocalypse. Ce dont nous avons été informés en ce sens équivaudrait à, dans l'Évangile selon Matthieu, la même ligne prophétique est reprise comme elle l'est dans le livre de l'Apocalypse.
L'Apocalypse est un livre scellé, mais c'est aussi un livre ouvert. Elle relate des événements merveilleux qui doivent se produire dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Les enseignements de ce livre sont précis et non mystiques et inintelligibles. On y reprend la même ligne de prophétie que dans Daniel. Certaines prophéties, Dieu les a répétées, montrant ainsi qu'il faut leur accorder de l'importance. Le Seigneur ne répète pas des choses qui sont sans grande conséquence. Manuscript Release, vol 9, 8.
Le livre de Matthieu reprend la même ligne de prophétie que l'Apocalypse et Daniel. Et elle est portée à la perfection dans le livre de l'Apocalypse, car le mot « complément » signifie « perfection ».
Dans l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se rejoignent et s'achèvent. Ici se trouve le complément du livre de Daniel. Là est une prophétie, l'autre, une révélation. Le livre qui a été scellé n'est pas l'Apocalypse, mais cette portion de la prophétie de Daniel qui concerne les derniers jours. L'ange donna cet ordre. « Mais toi, ô Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Daniel 12, 4.
Les Actes des Apôtres, 585.
Matthieu, Daniel et l'Apocalypse sont le même livre.
Les livres de Daniel et de l'Apocalypse ne font qu'un. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. L'un un livre scellé, l'autre un livre ouvert. Jean entendit les mystères que les tonnerres firent entendre, mais il reçut l'ordre de ne pas les écrire. Le commentaire biblique adventiste du septième jour, volume 7, 961.
Il m'a semblé important de prendre le temps de replacer l'Évangile selon Matthieu dans son contexte, ce qui pourrait mettre en évidence la signification prophétique du fait que Pierre se trouve à Césarée de Philippe, avant que je ne ramène l'étude au livre de Joël. Je vais essayer de résumer mes observations sur l'Évangile selon Matthieu afin d'illustrer l'immense signification prophétique de Pierre à Césarée de Philippe, qui est le panium de Daniel 11, versets 13 à 15. L'Évangile selon Matthieu est structuré selon trois lignes prophétiques distinctes. La première correspond aux 10 premiers chapitres, la deuxième aux 12 chapitres suivants. Puis vient une troisième ligne composée de 6 chapitres. Les 10 premiers chapitres représentent le premier ange de l'Apocalypse 14. Les 12 suivants représentent le deuxième ange de l'Apocalypse 14 et les 6 derniers représentent le troisième ange de l'Apocalypse 14. Je n'ai pas encore clairement démontré cette observation, mais cela peut aisément être accompli. Avant d'en arriver là, je souhaite continuer à poser quelques larges touches sur la toile qu'est l'Évangile selon Matthieu. La deuxième ligne des chapitres 11 à 22 est représentée par le deuxième ange. Et le deuxième ange signale toujours un redoublement, car Babylone est tombée. Les chapitres 11 à 22 de la Genèse exposent la promesse puis l'alliance en trois étapes de Dieu avec un peuple choisi par l'intermédiaire du patriarche Abraham. Le verset au centre même de ces 12 chapitres désigne la circoncision comme le signe de l'alliance, et elle a été instituée lors de la deuxième des trois étapes. Le verset central de la ligne d'alliance parallèle chez Matthieu est le moment où le nom de Simon Barjona est changé en Pierre.
« Et moi, je te dis aussi, tu es Pierre ?» Et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18.
Le nom de Pierre représente les 144 000, et il représente la classe qui fonde sa foi sur l'écoute du message du Christ. Non pas simplement le message au sujet de Jésus, mais le message que Jésus a identifié comme ayant été donné à Pierre par le Seigneur lui-même.
Il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ !» le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 15, 17.
La foi de Pierre est fondée sur Jésus devenant le Christ, le Messie. Le nom de Pierre est changé, comme celui d'Abraham, pour marquer une relation d'alliance, et son nom équivaut à 144 milliers. Et dans ce même verset, la grande controverse est identifiée comme un rocher qui est le fondement d'une église, qui prévaudrait contre les églises de l'enfer. Les 144 000 sont la manifestation finale d'un peuple d'alliance choisi, et Pierre représente ce groupe. Pierre représente aussi simultanément la première église chrétienne, l'église des disciples, car c'est l'histoire dans laquelle le Christ a posé les fondations de son église. Le Christ est le fondement, et il est aussi la clé de voûte. Et Pierre est un symbole de la première épouse chrétienne et de la dernière épouse chrétienne. Par conséquent, Pierre est un symbole à la fois alpha et oméga dans un seul verset.
Ce verset-là est le verset central de 12 chapitres qui représente le message du deuxième ange, et Pierre fait aussi office à la fois de première épouse et de dernière épouse. La dernière épouse sera en guerre avec la synagogue de Satan, et la dernière épouse sera composée de deux groupes. Un groupe, les 144 000, l'autre groupe, la grande foule. La grande foule est représentée par Smyrne et les 144 000 par Philadelphie.
Les 144 000 sont des Philadelphiens et le changement de nom de Pierre au verset 18 représente le scellement des 144 000. Il est le symbole de ceux qui sont scellés et dans le verset central des 12 chapitres de l'Alliance, il s'aligne avec le verset central des 12 chapitres de la Genèse où la circoncision est identifiée comme le signe. Les chapitres 11 à 22 de l'Apocalypse fournissent la troisième ligne des 12 chapitres du témoignage de l'Alliance et le verset central de ces 12 chapitres identifie le mariage de la prostituée de l'Apocalypse 17 avec les rois de la terre.
Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même le huitième. Elle est des sept et elle va à la perdition. Apocalypse 17 en 11.
Ce verset concerne l'identification de la chute finale de Babylone la Grande, et la première chute de Babel se situe dans le premier chapitre de la ligne d'alliance, en 12 chapitres de la Genèse. Pierre représente les 144 000 dans le verset central, qui s'aligne sur le verset central de la Genèse.
dans le verset central de l'Apocalypse, la chute de Babylone la Grande met un terme à l'histoire de Nimrod, le grand chasseur de Babel. Les versets centraux de chacune de ces trois lignes prophétiques identifient soit le sceau de Dieu, soit la marque de la bête. L'alliance babylonienne de mort qui commence dans la Genèse atteint sa fin dans l'Apocalypse. Ce faisant, elle place un commencement et une fin sur les trois lignes lorsqu'elles sont réunies, ligne sur ligne. Là où Pierre est employé comme symbole du grand conflit entre le rocher et les portes de l'enfer, se trouve le message du second ange, car le message du second ange est « Babylone est tombée, Nimrod est tombée, la prostituée de Rome ». La deuxième des trois, ligne de Matthieu, est le message du second ange, car elle identifie deux chutes de Babylone. Elle présente un mariage contrefait précisément là où le vrai mariage est consommé, à la loi du dimanche. Elle représente le nombre 8 comme une contrefaçon du peuple de Dieu, le véritable 8. La papauté est aussi présentée comme contrefaisant Dieu, car elle était, et pourtant est, et montera, elle s'élève précisément là où l'étendard s'élève, la loi du dimanche. Dans Matthieu, il y a 12 accomplissements messianiques, et il y a entre 300 et 500 prophéties concernant le Messie dans l'Ancien Testament. Matthieu contient 12 accomplissements explicitement identifiés, bien plus que dans chacun des trois autres évangiles. Ces 12 accomplissements correspondent à 9 chalands distincts dans le mouvement réformateur des 144 000. 9 symbolisent la complétude, car il n'y a pas de nombre au-delà de 9. Toute autre quantité après 9 n'emploie que les 9 chiffres d'Agaméa 9 et le 0. 9 est la plénitude. Parmi ces 9 jalons, 2 comportent plus d'un des accomplissements de Matthieu. Le 11 septembre en a 2 et la loi du dimanche en a 3. Le temps de la fin en 1989, la formalisation du message en 1996, puis 9 chants 11, puis la déception du 18 juillet 2020, puis la voix dans le désert en juillet 2023, qui a conduit à la résurrection de 2024, laquelle mène au cri de minuit, puis la séparation des prêtres, qui culmine avec la loi du dimanche. 9 jalons, dont l'un a 2 témoins et un autre en a 3. 9 chants 11 en a 2 et la loi du dimanche en a 3. Cela signifie que, dans la ligne de réforme des 144 000, les 2 témoins de 9 chants 11 jusqu'aux 3 témoins de la loi du dimanche marquent le temps du scellement des 144 000. Les 12 jalons s'alignent avec chaque mouvement de réforme, et ce faisant, ils soulignent et identifient le temps du scellement des 144 000 de 9 chants 11 jusqu'à la loi du dimanche. Ce faisant, elle identifie 2 témoins au 11 septembre et 3 témoins à la loi du dimanche. Les 2 témoins du 11 septembre correspondent au Henbazian de message du deuxième ange, et les 3 témoins de la loi du dimanche correspondent au message du troisième ange. Par conséquent, la ligne produite par les accomplissements, chez Matthieu, des prophéties messianiques, isole et met en relief le temps du scellement, tout en identifiant le deuxième ange comme l'alpha de l'histoire du scellement, et le troisième ange comme l'oméga. Cela signifie que le temps du scellement est encadré par un chiffre 2 et un chiffre 3, plaçant ainsi le nombre 23, symbole de l'expiation, sur l'ensemble de l'histoire du scellement. Dans l'Évangile selon Matthieu, il y a 3 lignes prophétiques qui représentent respectivement le premier, le deuxième et le troisième ange, et les 12 chapitres de que la deuxième ligne de Matthieu représente l'alliance avec les 144 000, car elle est l'oméga de l'alliance alpha de la Genèse avec Abraham. Cela signifie aussi que, pour le deuxième ange, lorsque Pierre représente à la fois la première et la dernière épouse chrétienne, le dédoublement de Pierre établit l'exigence prophétique d'un doublement dans le deuxième ange. Avec 3 témoins, le nombre 12 est la corde qui relie les 3 lignes de 12 chapitres entre elles. Ainsi, lorsque nous trouvons une autre représentation du nombre 12 dans l'Évangile selon Matthieu, elle doit être alignée avec les autres représentations du nombre 12 dans l'Évangile selon Matthieu. Les 12 chapitres de Matthieu, qui commencent par le nombre symbolique 11 et se terminent par sa contrepartie symbolique, le nombre 22, s'alignent sur la ligne de réforme des 144 000, représentée par les 12 accomplissements messianiques, manifestant ainsi un second doublement dans la ligne du deuxième ange. Les 12 accomplissements messianiques, conjointement avec les 12 chapitres, constituent le doublement du deuxième ange, mais multipliés, ils représentent 144 000. Pierre est doublé, et le nombre 12 l'est aussi. Ces doublements accomplissent le doublement de la chute de Babylone, qui se produit 2 fois. Les chapitres 11 à 22 correspondent au deuxième ange de l'Apocalypse 14. Le nombre 10 est symbolique d'une épreuve, et la première des 3 épreuves est constituée par les 10 premiers chapitres de Matthieu. 10 symbolise une épreuve. Puisque Matthieu est l'alpha et l'Apocalypse l'oméga, le chapitre 1 de chacun des 2 livres commence par une révélation de Jésus-Christ. Au chapitre 1, Joseph est mis à l'épreuve quant au fait de croire l'ange ou non. Son pendant était le père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui n'a pas cru et a échoué à la même épreuve. L'un a accepté une naissance providentielle, l'autre a douté.
À chapitre 2, Hérode craignait la naissance d'un nouveau roi, et Joseph et Marie se réfugièrent en Égypte. Jean-Baptiste introduisit la première épreuve au chapitre 3, une première épreuve que Sir White identifie comme une épreuve de vie ou de mort, car elle écrivit que « ceux qui rejetèrent le message de Jean ne purent pas bénéficier de Jésus ». Le premier ange est un message de mise à l'épreuve qui appelle les hommes, comme Jean, à craindre Dieu, car l'heure du jugement de Dieu vient. Ceci est représenté par Jean lorsqu'il demanda « Qui vous a averti de fuir la colère à venir ?» Puis au chapitre 4, Jésus jeûne pendant 40 jours, ce qui culmine par trois épreuves distinctes, car les trois épreuves sont toujours représentées dans le message du premier ange. Ensuite, Jésus commença à poser les fondations en choisissant ses disciples, car avec Esdras et Néhémie, les fondations du temple furent posées dans l'histoire du premier décret, et avec les mille hérites, les fondations furent posées dans l'histoire du premier ange. Les fondations sont les béatitudes, suivies de ces miracles, qui conduisirent à l'envoi des 12 disciples pour clore le chapitre 10. Les 12 disciples étaient alors en place, et l'inspiration affirme que les disciples étaient le fondement de l'Église chrétienne. Au chapitre 11, les fondations étaient achevées. Dans le chapitre 11, les disciples exercent leur ministère par eux-mêmes. Jésus est seul, ce qui marque une rupture nette entre les chapitres 10 et 11. Les chapitres 1 à 10 constituent le message du premier ange, qui s'est achevé à l'arrivée du second. Le deuxième ange produit une division, une séparation, comme chez les millérites et les protestants. Le chapitre 10 se termine par la séparation de Jésus d'Ève avec les disciples, et dans le chapitre 11, il est seul. Les chapitres 11 à 22 représentent le deuxième ange, conduisant au chapitre 23-28 comme la troisième ligne du troisième ange. Bien sûr, le troisième ange arrive à la loi du dimanche, ce que représente la Pâque des chapitres 26 à 28. 23 est le symbole de l'expiation, et le premier de ces six chapitres représente le message du premier ange, et les trois derniers chapitres représentent le message du troisième ange. Les deux chapitres au milieu, 24 et 25, représentent le deuxième ange. Les trois derniers chapitres contiennent 23 jalons spécifiques alignant le chapitre 23 en tant que premier ange ou commencement et les chapitres 26 à 28 en tant que troisième avec 23 jalons. Le chapitre 23 est le premier ange et les deux chapitres suivants sont le deuxième ange et les trois derniers chapitres sont le troisième ange. La troisième ligne dans Matthieu représente le troisième ange et elle est divisée en trois étapes. Le chapitre 23 est la première étape et le premier ange. Les chapitres 24 et 25 sont la deuxième étape et le deuxième ange. Les chapitres 26, 27 et 28 sont la troisième étape et le troisième ange. Un chapitre pour le premier ange, deux chapitres pour le deuxième ange et trois chapitres pour le troisième. Le troisième, qui est la Pâque, qui représente la croix et qui, à son tour, s'aligne avec la loi du dimanche, est aussi représenté par la Pentecôte. La Pentecôte correspond au nombre 50. Et 50 est le symbole du jubilé. Le jubilé comprend une 49e année, la fin du 7e cycle de 7 ans. Le nombre 49 précède le nombre 50, mais lui est directement lié. La troisième ligne dans Matthieu commence au chapitre 23. Elle est ensuite suivie de deux chapitres, 24-25, qui totalisent 49, juste avant le troisième ange, qui représente le nombre 50. Le début de la suite de 6 chapitres est 23, et la fin compte 23 jalons, et la somme obtenue en additionnant le chapitre 26 avec 27 et 28 est égale à 81, ce qui est un symbole des prêtres intégrés jusque dans les versets mêmes qui identifient l'effusion du sang dont le souverain sacrificateur céleste se servirait dans son ministère de grand prêtre. Pour cette raison, le titre du chapitre 81 dans The Desire of Ages est fondé sur Matthieu 28.
Chapitre 81 « Le Seigneur est ressuscité ». Ces chapitres se fondent sur Matthieu 28, 2, 4, 11, 15, le désir des âges, 780.
Le nombre 81 représente le sacerdoce et, au chapitre 8 du Lévitique, les 7 jours de consécration des prêtres sont décrits. Au chapitre 8 des Nombres, la purification des Lévites est exposée. Dans 2 Chroniques, 81 prêtres s'opposent au roi Ouzia, et ce passage contribue directement à établir le message du scellement des 144 000.
Mais lorsqu'il fut devenu fort, son cœur s'éleva pour sa ruine, car il transgressa contre le Seigneur son Dieu et entra dans le temple du Seigneur pour brûler de l'encens sur l'autel de l'encens. Azaria le prêtre entra après lui, avec lui 80 prêtres du Seigneur, hommes vaillants. Ils s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent : « Il ne t'appartient pas, Ozias, de brûler de l'encens pour le Seigneur, Cela revient aux prêtres, fils d'Aaron, qui sont consacrés pour brûler l'encens. Sors du sanctuaire, car tu as transgressé. Cela ne te vaudra aucun honneur de la part du Seigneur Dieu. »
Alors Ousaïa fut irrité, et il avait un encensoir à la main pour brûler de l'encens. Et pendant qu'il était irrité contre des prêtres, la lèpre apparut même sur son front, devant les prêtres, dans la maison du Seigneur, à côté de l'autel de l'encens. Et Azaria, le grand prêtre, et tous les prêtres le regardèrent. Et voici, il était lépreux au front. Et ils le chassèrent de là. Oui, lui-même se hâta aussi de sortir, parce que le Seigneur l'avait frappé. Et le roi Ousaïa fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il habita dans une maison à part, étant lépreux, car il était exclu de la maison du Seigneur. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi, jugeant le peuple du pays. 2 Chroniques 26, 16, 21.
Le nom 81, en tant que symbole, est associé aux prêtres qui se sont opposés aux efforts d'Ozias pour offrir des sacrifices dans le sanctuaire. La structure prophétique du passage concernant Ozias s'aligne sur la structure prophétique de Daniel 11, versets 11 et 12. Les deux passages identifient un roi du Sud dont le cœur s'exalte à la suite de victoires militaires, et en particulier de la victoire récente sur un roi du Nord. Lorsque le verset 11 de Daniel 11 fut accompli par Ptolémée lors de la bataille de Raphia, il chercha, comme Ozias, à offrir un sacrifice dans le sanctuaire à Jérusalem, mais se heurta à l'opposition des prêtres. Ligne sur ligne, les deux témoins identifient la guerre en Ukraine qui est presque achevée.
Le chapitre 81 du Désir des âges est fondé sur Matthieu 28 et présente le Christ montant au ciel pour commencer son œuvre en tant que grand prêtre céleste.
Voici l'essentiel de ce que nous avons dit. Nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Hébreux 8, 1.
Le nombre est un symbole des prêtres et des chapitres 26, 27 et 28. La troisième étape de la troisième ligne dans Matthieu fait un total de 8 en 5 ans. La deuxième étape fait un total de 49 et la première étape vaut un 3. 4 en 5 ans représentent 80 prêtres et un grand prêtre dans le témoignage d'Uzia. À ce niveau, les 80 prêtres sont humains et le grand prêtre est divin. 95 représente la combinaison de la divinité avec l'humanité. Le chiffre 1 dans le nombre 95 représente la divinité.
Le chiffre 1 dans 11 représente l'humanité et aussi la divinité. Le chiffre 1 dans le nombre 21 représente la divinité et 20 l'humanité. La combinaison 2 et 1 peut être vue chez les disciples sur la route d'Emmaüs. La combinaison du 3 et de l'1, c'est l'humanité et la divinité, comme le représente la fournaise ardente de Shadrach, Meshach et Abednego. La combinaison du 4 et de l'1 indique que la combinaison de la divinité avec l'humanité s'accomplit à la quatrième génération. La combinaison 5 et 1 identifie les 5 vierges qui attendent l'époux. La combinaison du 6 et de l'aise représente la relation de l'homme au sabbat du 7e jour, dont la divinité est le Seigneur. Le nombre 6 est un symbole de l'homme, et le 1 est le Christ. La combinaison du 7 et de l'1 représente la transition de la 7e église de Laodicée vers l'expérience philadelphienne. Eitu est un symbole des prêtres et de leur relation au grand prêtre. La combinaison du 9 et de l'1 intre indique l'achèvement. La grossesse dure 9 mois. Il y eut 9 générations jusqu'à Noé, et 9 générations ensuite qui menèrent à l'Alliance. Jésus rendit l'Esprit à la 9e heure. La combinaison du 9 et de l'1 indique l'achèvement de l'œuvre de scellement de son peuple. Dans ce contexte, le numéro 1 est la combinaison de l'humanité et de la divinité. Le numéro 2 est le Maître divin, qui enseigne à l'humanité. Le numéro 3 est le message des trois anges, qui est le message qui leur est enseigné au numéro 2. Le numéro 4 identifie la quatrième génération, identifiant ainsi l'histoire prophétique où les 5 vierges sages sont manifestées et recréées, comme le représente le 6e jour de la création. Puis la 7e étape identifie la transition vers Philadelphie et l'énigme du 8e des 7. À ce moment-là, l'alliance est accomplie et le sacerdoce de 81 est élevé pour achever l'œuvre présentée par le numéro 9. À chaque étape, le numéro 1 est le lion de la tribu de Juda, qui est aussi Palmoni, le merveilleux dénombreur. 81 est un symbole Mafiti. Palmoni a créé tous les nombres. Le nombre 11 représente la moitié de 22, et tous deux représentent la combinaison de la divinité et de l'humanité. Dans un article récent, j'ai inclus deux affirmations qui concernent le début et la fin. La première déclaration indiquait que, lorsque Ellen White eut ses premières visions du sanctuaire, il lui fut montré que le commandement du sabbat brillait plus que les autres commandements. Il lui fut également montré que,
dans les derniers jours, la doctrine de l'incarnation serait revêtue d'une douce lueur. Le sabbat était une lumière au commencement qui préfigurait la doctrine de l'incarnation à la fin. L'union de la divinité et de l'humanité est la doctrine de l'incarnation, car c'est la doctrine selon laquelle le Christ a pris sur lui la chair humaine, établissant ainsi l'exemple que la divinité unie à l'humanité ne pèche pas.
11 plus 11 font 22, et le nombre 11 ouvre chacune des lignes d'alliance de 12 chapitres, et chacune se termine par 22. Les chapitres 11 et les versets 11 au sein des Écritures représentent des jalons pour les 144 000.
2014.
La guerre en Ukraine a commencé en 2014 et est la ligne extérieure de la période de scellement des 144 000.
Et le roi du Midi s'alarmera de colère, sortira et combattra contre lui, même contre le roi du Nord. Il mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera livrée entre ses mains. Daniel 11, 11.
Et in juillet 2020.
La première déception fut le retard de Jésus à se rendre pour ressusciter Lazare. Le miracle culminant est le sceau de Dieu. Jésus attendit 4 jours avant de ressusciter Lazare. Le verset dans Jean identifie le dernier des 7 miracles qui sont directement identifiés dans l'évangile de Jean. Le premier fut le changement de l'eau en vin. Considérer les 7 miracles qui culminent avec Jean 11, 11 apporte beaucoup de lumière. Et tous les théologiens s'accordent pour dire qu'il n'y a que 7 miracles dans Jean sur la base du fait que ces miracles y sont directement identifiés. Pour cette raison, il n'inclut pas la résurrection du Christ comme le 8e signe. Mais ce fut un miracle, et sa résurrection est le signe de l'Alliance. Ainsi, la résurrection dans le livre de Jean est le 8e miracle, c'est-à-dire des 7, car chacun des 7 miracles précédents a été accompli par la puissance de sa résurrection.
Il dit ces choses, et après cela, il leur dit « Notre ami Lazare dort, mais je vais pour le réveiller de son sommeil. » Jean 11, 11.
Juillet 2023.
En juillet 2023, la voix dans le désert se mit à crier un message porteur de l'Esprit de vie.
Et après les 3 jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et il se tint sur leurs pieds. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les virent. Apocalypse 11, 11.
Jean naît 8 jours avant la loi du dimanche, car c'est lors de la loi du dimanche que son père Zacharie parle. Le nom de Jean est changé de Zacharie en Jean lors de la loi du dimanche, où le changement de son nom identifie nos relations d'alliance. La naissance typifie la résurrection de ceux qui ont été tués dans les rues le 18 juillet 2020.
À vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 11, 1.
2024.
Ésaïe identifie le second rassemblement qui s'est accompli en 1849. Le second rassemblement a commencé en juillet 2023 et se terminera lorsque le peuple de Dieu sera scellé.
Et il arrivera, en ce jour-là, que le Seigneur étendra sa main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple, ceux qui resteront, d'Assyrie, d'Égypte, de Patros, de Couch, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Ésaïe 11, 11.
Juste avant la loi du dimanche,
Jésus vient d'achever son entrée triomphale, marquant ainsi la transition du cri de minuit à la loi du dimanche. Il a avec lui les 12 disciples, car ils ont déjà été choisis avant la loi du dimanche.
Et Jésus entra à Jérusalem et dans le temple, et après avoir tout considéré, comme le soir était venu, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Marc 11, 11.
Lorsque le scellement des 144 000 est accompli, juste avant la loi du dimanche, l'union de l'époux de la divinité avec l'épouse de l'humanité est achevée, et les deux sont éternellement un, car l'expiation est achevée.
Néanmoins, dans le Seigneur, ni l'homme n'est sans la femme, ni la femme sans l'homme. 1 Corinthiens 11, 11.
La naissance miraculeuse de Sarah, une naissance longtemps différée depuis la rébellion de 1863, s'accomplit lorsque la femme d'Apocalypse 12 donne naissance à des jumeaux. Le premier enfant arrive au cri de minuit, et le second à la loi du dimanche. L'enfant qui est sorti en second avait le fil écarlate qui représente le signe de Rahab à Jéricho.
C'est aussi par la foi que Sarah elle-même reçut la force de concevoir et mit au monde un enfant, bien qu'elle fût passée d'âge, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Hébreux 11, 11.
La loi du dimanche pour Laodicée.
Jérémie identifie le jugement de l'Église adventiste du septième jour, laodicéenne.
C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici. Je ferai venir sur eux un mal auquel ils ne pourront échapper. Et s'ils crient vers moi, je ne les écouterai pas. Jérémie 11, 11.
Ézéchiel est d'accord avec le jugement de Jérémie concernant l'adventisme.
cette ville ne sera pas pour vous un chaudron, et vous ne serez pas la chair au milieu d'elle. Mais je vous jugerai à la frontière d'Israël. Ézéchiel 11, 11.
La mise à l'écart de l'Israël ancien en tant que peuple d'alliance de Dieu inclut le fait que Dieu suscite la jalousie de l'ancien peuple de l'alliance au sujet de ce qu'il a rejeté. Cela se reproduit à l'égard de l'adventisme, au moment de la loi du dimanche.
Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber ? Dieu nous en préserve. Mais, par leur chute, le salut est parvenu aux païens, afin de les rendre jaloux. Romains 11, 11.
L'adventisme, fondé sur l'œuvre de William Miller, qu'il rejette, demeure le mouvement qui a construit le temple. Mais, comme Salomon, qui a lui aussi construit le temple, ils ont rompu l'alliance et le royaume leur sera ôté et donné à un peuple qui gérera la vigne de Dieu comme elle l'ordonne.
C'est pourquoi le Seigneur dit à Salomon, « Puisque tu as fait cela, et que tu n'as pas gardé mon alliance ni mes statuts, comme je te l'ai ordonné, je t'arracherai certainement le royaume et je le donnerai à ton serviteur. » 1 Roi 11.11.
La loi dominicale pour Philadelphie. Au moment de la loi du dimanche, l'Église triomphante est établie sur sa propre terre, selon les prophètes, et cette terre regorge du message de la pluie de l'arrière-saison. Jéricho a été reconstruite en 1863 et, au moment de la loi du dimanche, Jéricho tombe.
Mais le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de la pluie du ciel. Deutéronome 11, 11.
Une cité est un royaume, et l'Église triomphante représente le royaume de gloire du Christ. Ce royaume de l'Église triomphante commence avec la loi du dimanche, lorsque son Église est élevée et exaltée au-dessus de toutes les montagnes et de toutes les collines.
La ville s'élève par la bénédiction des justes, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Proverbe 11, 11.
C'est à la 9e heure que l'ange est apparu à Cornelius, lui ordonnant d'envoyer chercher Pierre, indiquant ainsi le moment où l'Évangile parvient aux païens lors de la loi du dimanche. Quand Dieu ordonna à Pierre d'y aller, ce fut dans le contexte d'une vision où l'on mange des animaux impurs. Cela s'accomplit lors de la loi du dimanche. La 9e heure correspond à la 9e d'horreur, celle où le Christ est mort. La 9e heure représente la fin d'une période qui commence à la 3e heure, lorsque Jésus fut crucifié, mourant 6 heures plus tard. C'est la même période pour Pierre, qui se trouve dans la chambre haute à la 3e heure, puis au temple à la 9e heure. Une 9e heure se termine à la mort du Christ. À la 9e heure suivante, Pierre est au temple proclamant le message de Joël. La mort du Christ a mis fin à la relation d'alliance avec Israël et a ouvert la porte aux païens, représentée par Cornelius.
Et voici, aussitôt, 3 hommes s'étaient déjà présentés à la maison où j'étais, envoyés de Césarée vers moi. Acte 11, 11.
Ils vous seront en obination. Vous ne mangerez pas de leur chair, mais vous aurez leur cadavre en obination. Lévitique 11, 11.
Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.
Je rêvais que Dieu, par une main invisible, m'envoyait un coffret curieusement ouvragé d'environ 10 pouces de long sur 6 pouces de côté, fait d'ébène et de perles curieusement incrustées. Une clé était attachée au coffret. Je pris aussitôt la clé et ouvris le coffret, et à mon émerveillement et à ma surprise, je le trouvais rempli de bijoux de toutes sortes et de toutes tailles, de diamants, de pierres précieuses, ainsi que de pièces d'or et d'argent de toutes dimensions et valeurs, magnifiquement disposés chacun à sa place dans le coffret. Et ainsi disposés, ils réfléchissaient une lumière et une gloire que seul le soleil pouvait égaler. Je regardais dans le coffret, mais mes yeux furent éblouis à cette vue. Ils brillaient d'une gloire 10 fois plus grande qu'auparavant. Je pensais qu'ils avaient été frottés dans le sable par les pieds de ces méchants qui les avaient dispersés et foulés dans la poussière. Ils étaient rangés dans le coffret, dans un bel ordre, chacun à sa place, sans qu'on pût discerner aucun effort de l'homme qui les y avait jetés. Je poussai un cri de pure joie, et ce cri me réveilla. Early Writings 90-83.
Vous repoussez trop loin la venue du Seigneur. J'ai vu que la pluie de l'arrière-saison survenait aussi soudainement que le cri de minuit, et avec une puissance 10 fois plus grande. Spalding and Magan, 5.
Et dans toutes les questions de sagesse et d'intelligence sur lesquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois meilleures que tous les magiciens et astrologues qui se trouvaient dans tout son royaume. Daniel 1, 18 à 20.